Après un épisode pilote pour se faire la main, on est de retour pour le premier véritable numéro du podcast Smells Like Teen Music, co-animé avec l'amigo Seb. Pour ceux qui prendraient le train en marche, je réexplique notre concept hautement compliqué. Ce podcast est consacré à la culture musicale des années 90, grunge, indie, alternative rock, emo rock, punk rock mélodique, post-hardcore, Britpop et plus si affinité. L'unique but est de renifler à nouveau cette fragrance typique des 90s. C'est sans prétention, juste pour se faire une petite playlist commentée de Derrière les fagots. Seb, est-ce que ça roule ?
Ça va super bien Sam, très content de te retrouver pour ce premier véritable numéro.
Ok, cool. Donc on saute dans le pit directos, hein, Seb. On va essayer d'attaquer les 40 minutes là. C'est un petit challenge qu'on s'est donné, tu vois. Passer de 50 à 40, je sais pas si ça va être possible.
Donc moi, bah, écoute, je vais te dire, à mon avis déjà, ça va être super compliqué parce que vu la longueur du premier titre que t'as choisi, ça va nous bouffer la moitié de l'émission.
Ouais, c'est clair. Donc première sélection en ce qui me concerne, le groupe Smile, le morceau qui s'appelle Attention. Rock Anthem for the Retarded Teenage Hipster Population, un titre extrait de l'album Maki, sorti en 1995. C'est sorti sur le label Atlantic Records, c'est un groupe californien, Orange County. J'ai acheté ce Scud en 1997. Donc Smile, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange de grunge épais, de rock californien mélodique étendu, avec une trace de ce que l'on nommerait plus tard de stoner.
Ah, exactement, c'était des précurseurs ce groupe-là du côté stoner. Ouais.
Vous mélangez Nirvana, Smashing Pumpkins, All A2L, bien entendu, et Kayush, et vous obtenez Smile. Un groupe méconnu qui pourtant aurait mérité une belle place dans les charts. Pour info, le batteur a joué dans Fu Manchu par la suite. Voilà, Seb, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ?
Ben ouais, c'est un groupe complètement sous-estimé, Smile. En fait, c'est un groupe qui fait partie du wagon de tous ces groupes qui ont été signés par les majors, complètement dans la panique post-Nirvana. Ils étaient tous en quête du next Nirvana. Ils ont sorti tous ces groupes, un ou deux albums sur major avant de se faire lamentablement jeter. C'est bien dommage pour Smile qui aurait vraiment mérité une toute autre destinée.
Oui, mais un groupe trop fin pour le music business, je dirais.
Carrément.
On s'écoute ce morceau et je ne vais pas répéter le titre du morceau, Seb. Smile.
Still insist on playing.
Alors Sam, toi tu as commencé l'émission en 1995, ben moi je vais aller juste une année après, 1996, sur un label que je sais tu as beaucoup écouté, Revelation Records. J'ai choisi Sensefield avec Building, Sensefield, un groupe de Redondo Beach, encore des Californiens. Revelation Records, c'est aussi un indice quant au contenu de cette galette. Alors c'est un mix d'émo, de post-hardcore et de punk rock. C'est à classer pas loin de Sam I Am, de Sunny Day Real Estate ou de Jimmy Eat World, voire de Texas Is the Reason. Un rock racé sans être prétentieux et qui est en prise directe sur les émotions. Des titres accrocheurs, mélodiques, travaillés en profondeur. On sent vraiment qu'on avait affaire sur ce groupe-là, des gars qui avaient un cerveau entre les oreilles. Ça s'entend et surtout, on sent vraiment un savoir-faire incontestable. Mais on a affaire à des excellents musiciens en somme. Ça leur vaudra en 1996 une signature chez Warner, juste après l'album Building, et surtout une grosse galère, puisque durant la durée de ce contrat chez Warner, ils ne pourront sortir aucun disque, puisque finalement le successeur de Building ne sortira que bien plus tard, en 2001, sur un label canadien, si je me rappelle bien. Puis ce disque qui avait suivi Building, il était nettement plus anecdotique, enfin moi j'avais beaucoup moins aimé. Il s'appelait Tonight and Forever, c'était un peu plus prétentieux, je trouve, vachement plus arrangé avec des claviers, des cordes. Bon, perso, moi je lui préfère largement Building, 1 minute 34 précisément de punk rock bouillonnant, bien juvénile, exactement comme l'étaient à l'époque les bons disques démo.
Ouais, donc Sensefield, oui, une grosse pièce, en effet. Alors, je vais mettre un petit bémol sur ce que tu dis sur la suite de Sensefield, qui est, à mon avis, très bonne, hein, très différente, beaucoup plus pop, en fait, plus calibrée.
Ah, carrément plus pop, ouais.
Mais les Scuds se réécoutent avec plaisir. Je dirais aussi que le batteur a fini chez Nada Surf, ou en tout cas, il a fait un passage chez Nada Surf. On n'est pas si loin que ça, hein. La suite discographique de Sainsfield et Nada Surf,
Ah oui,
c'est
c'est très proche, ouais.
du même tonneau. Ouais. Sainsfield, j'avais acheté cet album quand il est sorti, et effectivement, c'était une petite surprise. L'album d'avant est clairement moins bien aussi. Hein. C'est un groupe qu'on cite moins, par exemple, que Texas Is the Reason et ceux que tu as cités, Jimmy Twirl, etc., etc. Mais reste ce building une pièce maîtresse de l'emo punk. On s'écoute ça. On enchaîne avec Eastwood, le morceau Medium, un titre extrait de l'album Behind the Wall, un groupe suisse de Lausanne, à côté de chez moi donc. Sorti à l'époque sur Noise Product, c'est sorti en 1995, produit par David Weber, un ponte de la production dans les années 90, hein, qui avait produit Lophophora, Young Gods, No Return, Drive Blind, Virago, Real Cool Killer, Script AC, etc., etc. En ce qui me concerne, j'avais collaboré avec ce producteur avec Second Rate, et ensuite quelques années plus tard avec Hellbats pour l'album Unleashed and Alive. Qu'est-ce que je peux dire sur Eastwood que je pourrais nommer leur recette musicale, une sorte de crossover d'alternative rock et de post-hardcore, matinée de fusion à grosse guitare, influencée par Quicksand, Rage Against the Machine, Orange, 9mm, et ce groupe deviendra ensuite Shovel, qui comptait en son sein le guitariste et le batteur de Sûr, donc à peu près les mêmes ingrédients musicaux, mais à peine plus branchés par la vague Deftones et compagnie. Le batteur a ensuite joué dans Houston Swinging Engine, voilà, qu'on avait croisé avec Los Cowboy Heroes, un concert parisien au Bateau Phare, si je me rappelle bien, il y a bien 13 ou 14 ans maintenant. Et voilà, ce batteur que je croisais de temps en temps dans les concerts de ci, de là, puisque en fait c'est un voisin, il habitait à 1h30 de chez moi. Et voilà, quand j'y jouais avec Hawaii Samurai à Lausanne ou avec mes autres groupes, c'est un mec qu'on voyait souvent dans le public, un mec très sympathique. Voilà pour Eastwood. Donc là, du coup, ouais, il y a ce côté un petit peu fusionnès des années 90, hein, Seb.
Carrément, ouais, une influence un peu hardcore, un peu hip-hop par moment. Rage Against the Machine, ouais, t'as bien fait de les citer. Et Helmet aussi, évidemment.
On s'écoute ce titre.
For the sake of gold, my eyes were shut. For the sake of gold, my eyes were shut. For the sake of gold, my eyes were shut. For the sake of gold, my eyes were shut.
Allez, on va continuer à éplucher notre sélection de ce premier épisode. Alors, en ce qui me concerne, j'ai choisi maintenant de vous passer un morceau d'un groupe qui est absolument incontournable dans les 90s, c'est Sugar. Alors Sugar, j'ai choisi un extrait du deuxième album de ce groupe de Bob Mould, un groupe post-Husker Du, et j'ai choisi plus particulièrement le morceau Gift, un morceau bien rock avec un son immédiatement reconnaissable, avec le chant si particulier de Bob Mould, mais aussi ce son de guitare grungy, cette basse qui vient vous taper derrière les oreilles, cette batterie au son sec, qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler le jeu d'un certain Dave Grohl. Dave Grohl qui, à mon avis, a dû aussi beaucoup écouter ce fameux groupe Sugar à l'époque où il préparait la suite de Nirvana et en particulier son projet des Foo Fighters, de la power pop dans ce qu'elle a de plus tubesque. Ben, franchement, moi j'ai pas d'autre mot à dire que la classe à l'état pur.
Ouais, Sugar, effectivement. Donc, même si je préfère la carrière solo de Bob Mould, hein, c'est ce qu'il a fait de mieux en tout cas. Ça inclut Skurdu, Sugar, etc., etc. Que dire d'autre que ça aurait pu devenir le Nirvana au début des années 90, quoi. Ça, c'était un petit peu antérieur à Nirvana, mais ça aurait pu cartonner de la même manière.
Ouais, juste un petit problème d'allumage, c'est tout. Nirvana est arrivé au bon endroit, au bon moment, et
Ouais.
Sugar était peut-être un poil en avance.
C'est ça. Bob Mould, donc je le redis, il a sorti une excellente autobio il y a 3 ou 4 ans, traduite en français il y a 2 ans chez Camion Blanc. Si vous ne l'avez pas
Exactement,
lu,
ouais.
il faut la lire absolument parce que c'est une des meilleures bios écrites par un musicien rock et affilié. Je vais préciser aussi que je l'ai vu à New York pour un concert semi-acoustique, hein, lui et sa guitare, Alone. Devant une petite centaine de personnes, c'était plutôt agréable. J'y avais glissé quelques mots à la fin, on avait tchatché de choses et d'autres, plutôt futiles, mais c'est un bon souvenir. Voilà.
Tu m'étonnes.
On s'écoute ça, Seb.
Allez, vas-y, envoie la sauce.
changement de couleur, j'enchaîne avec Strange Love, Time for the Rest of Your Life, un titre extrait de l'album du même nom, sorti en 1994 sur Food Records, qui n'était autre qu'une sous-division d'EMI. Un groupe qui a sorti 3 albums, j'en ai 2, qui sont tous deux d'une excellente facture. Au niveau de leur délire musical, on pourra les rapprocher de Weeping Boy, dont j'ai passé un titre le mois dernier dans ce même podcast. On peut parler de Suede aussi, Echo and the Bunnymen, ainsi que de la carrière solo de Morrissey dans les années 90. Du rock raffiné, emphatique et un poil en poulet.
Romantique même.
N'ayons pas peur des mots. Un groupe en tout cas dont le nom a été injustement oublié. Strange Love, Seb, qu'est-ce que tu en penses toi?
Bah écoute, j'en passe que du bien, comme je te disais tout à l'heure quand on jazzait juste avant de commencer l'émission. C'est un groupe que j'avais découvert à l'époque chez Bernard Lenoir sur Inter, là, dans son émission qui devait s'appeler Aéroculptible à l'époque ou quelque chose comme ça. Strange Love, Lenoir avait complètement craqué. Faut dire que lui, il était à fond aussi dans cette vague un petit peu Britpop, bien que Strange Love, on les assimile souvent à la Britpop, mais c'est pas véritablement ça. C'est même le contre-pied parfait à la Britpop avec, moi je rapprocherais plutôt ça d'un groupe un petit peu comme Radiohead ou quelque chose comme ça. Et donc Bernard Lenoir en passait aussi beaucoup. Je pense que ça venait du fait qu'il était un disciple de John Peel de la BBC, qui avait pris Strange Love sous son aile bienveillante au tout début du groupe, qui les avait poussés lors des 2 premiers EP qu'ils avaient sortis. Personnellement, ces 2 EP, je les connais pas du tout, mais en tout cas l'album Time for the Rest of Your Life est vraiment un de ces disques qui aurait mérité un tout autre destin à cette période-là. Mais bon, 1994, c'est l'année, une des années les plus grosses au niveau du rock des années 90. Et il y a eu tellement de bonnes sorties que, bon, je comprends que ce disque soit resté un petit peu oublié, non, tu crois pas?
Ouais, mais là, il y avait du monde, ouais, surtout en Angleterre à cette époque-là. Ça me rappelle aussi un petit peu, j'avais oublié de le noter, un groupe qui s'appelait Manson, M-A-N-S-U-N. Un truc Britpop avec un petit côté glammy derrière. Le dernier album de Strange Love, album éponyme, est tout aussi excellent. Donc je vous le conseille pour ceux qui ne connaissent pas.
À voir, et puis je crois, excuse-moi Sam, mais je crois aussi que Patrick Duff, le frontman de ce groupe, a continué une carrière solo derrière qui est tout à fait estimable.
Que je n'ai pas écouté, mais je te crois sur parole, Seb. On s'écoute ça.
I can't.
Allez, on continue. Alors, on va continuer avec The Almighty, un combo que je me devais de vous passer le plus rapidement possible dans ce podcast. Il m'aura pas fallu longtemps puisque dès le premier épisode, j'arrive à vous le placer. Alors, Almighty, un combo qui aura définitivement eu son heure de gloire pendant les 90s avant de complètement disparaître de la circulation. Alors, j'ai choisi Johnstone Mind pour plusieurs raisons. La première, c'est une pure bombe ce morceau avec un refrain ultra addictif qui reflète bien l'excellence de l'album Crank, qui était le cinquième album de The Almighty, sorti encore en 1994. Quand je dis que c'est une année charnière dans le rock des 90s, cette fameuse année 94, c'est un disque qui voyait Ricky Warwick et son groupe entamer une mue radicale. Ils étaient passés du heavy au rock racé et puissant, limite punk, et finalement pas si éloigné de leur cousin de Therapy. Et la deuxième raison de mon choix, c'est justement Therapy, puisque était invité à pousser la chansonnette sur ce Johnstone Mind, Andy Kearns de Therapy. Therapy qui avait aussi à l'époque signé un remix de ce titre, véritablement Uppercut.
C'est clair. Donc pour les racines heavy dont tu parlais, il faut les chercher plus du côté Motorhead, The Cult, etc.
Oui, oui,
etc.
Oui.
Ce genre de rock joué en cuir et en Santiago. Effectivement, Almighty, c'est un groupe qui s'est quand même pas mal adapté au business musical environnant, mais il a toujours fait proprement quoi, et avec bon goût.
Oui.
Et cet album, Crank, effectivement, est monstrueux. L'album d'avant, Power Trippin, est génial aussi. Hein, je crois.
Il est génial aussi, ouais, mais alors que Crank, quel baffe.
Crank est un peu plus musclé, mais ça reste quand même hyper, hyper heavy rock. Après, ils ont sorti Just Add Life, que j'aimais beaucoup moins.
Et ensuite... Oui, moi aussi, il m'avait moins marqué. J'avais beaucoup moins aimé tous les cuivres qui avaient été rajoutés. C'était vraiment très bizarre, ce disque.
Ouais. Mais bon, toujours un petit peu dans une volonté quand même d'accrocher le train déjà parti, quoi, j'ai l'impression. Mm. Donc Ricky Warwick, il a entamé une carrière solo là plutôt à succès, hein, puisqu'il a ouvert pour des groupes comme Def Leppard, etc., Bon Jovi, etc., etc. Donc là, c'est du vraiment du calibrousse, comme on dit.
FM pure souche.
Ouais. Et voilà. Par contre, sa carrière solo est assez cool, quoi. Donc folk, assez calibré, radiophonique, mais je vous le conseille également. On va s'écouter ce titre, Seb.
Exactement, cette fameuse époque où Ricky Warwick jouait torse nu et en pantalon de treillis et avec des ranjos aux pieds.
Un petit truc sur The Almighty, j'ai oublié, c'était le mari de Vanessa Warwick qui animait Headbanger Balls sur MTV. Donc je sais
Bah
pas
tu vois, je
si.
m'en rappelle plus tout ça.
Donc voilà, Ricky Warwick, Vanessa Warwick. Donc voilà aussi pourquoi peut-être on voyait beaucoup les clips de The Almighty dans Headbanger Balls, quoi. J'enchaîne avec la sélection musicale, la dernière en ce qui me concerne, la sélection musicale française. Shade, Nothing Hurts Me, un titre extrait du mini-CD Climb Before the Fall, sorti en 1998 sur le label Timer Records. C'est donc un groupe français d'Angoulême avec des ex-Robin Hood. C'en est la suite discographique en fait, en plus musclé, en plus massif. Une seule prod de ce groupe, malheureusement, carrière éphémère. On les a croisés avec Second Rate en 1999, du côté de Belfort. L'affiche, c'était, si je me rappelle bien, Unlogistique, Second Rate et Shade. Voilà, on les a croisés qu'une seule fois. J'étais plus ou moins en contact avec le bassiste de ce groupe qui gérait le label Timer Records, qui faisait quelques compilations, qui avait produit Creep AC, bref, qui faisait un petit peu d'occupation de terrain sur, à la fin des années 90 sur la scène indie musicale française. Dommage, parce qu'il y avait quand même du très très bon potentiel dans ce groupe. Ça évoque forcément Nirvana en plus massif, les débuts de Tantrum, avant que ça soit sur Noisy. Ça évoque aussi le dernier album de Drive Blind, ça évoque Helmet, ça évoque Ensom, ça évoque Kerb Dog. Voilà pour Shade. En tout cas, les gars n'ont pas laissé grand-chose, mais ce qu'ils ont laissé, c'est vraiment de qualité. Seb, qu'est-ce que tu as à dire sur ce groupe?
Sam, j'ai à dire que c'est vraiment pas sympa le coup que tu me fais. Comme je te disais, je n'ai absolument aucun souvenir de ce groupe.
Ouais, donc ouais, c'est un groupe qui a fait quelques concerts en France, qui était vraiment dans la strate souterraine de la scène, mais c'est du très bon. On va s'écouter ça, Seb.
Allez, au revoir, j'ai hâte de découvrir.
Thank you.
Allez, pour terminer cette émission, ma sélection française, là aussi, j'ai choisi quelque chose de véritablement référentiel, une très très grosse donc référence de la scène rock hexagonale des 90s, probablement le disque le plus marquant de cette période et pour cette scène. Encore qu'il faut pas oublier les Tux ou Sloy qui eux aussi ont fait très très fort sur les mêmes années, 95-96. J'ai choisi un titre de Drive Blind de Be a Vegetable, ça s'appelle Vegetable Vendetta en l'occurrence. Dire qu'on avait senti le coup venir, ça me paraît assez évident. Il y avait eu deux EP qui avaient précédé cet album, notamment Tropical Motion Fever qui avait véritablement ouvert la voie. Drive Blind avait mis le paquet pour cet album, à la fois au niveau des compositions et puis aussi à la fois au niveau de la réalisation, puisqu'ils avaient été chez le fameux David Weber dont tu nous parlais tout à l'heure, Sam, pour enregistrer cet album testamentaire à la signature unique. Alors musicalement, ça relève de plein de trucs, à la fois du grunge, du metal, de la noise, le tout travaillé avec un esprit aventureux, hérité notamment de Sonic Youth. Ça n'a pas été de facile de choisir un titre parce que cet album ne regorge que de tubes. Comme je disais, j'ai choisi Vegetable Vendetta, un titre qui est bien représentatif de cet album, avec des guitares abrasives, des cassures, des alternances de chants féminins masculins. Cet album de Drive Blind, Be a Vegetable, il est quasiment introuvable de nos jours, tellement il est devenu culte. À mon avis, il serait largement temps qu'il soit réédité. Alors je sais que le label 19-something fait des choses formidables dans ce domaine en ce moment. Ils ont ressorti plein de disques et ça serait franchement une excellente chose s'ils pouvaient se repencher sur Be a Vegetable, qui est véritablement un chef-d'œuvre en péril.
Ouais, donc pour 19-something, c'est des sorties digitales. Donc je pense qu'il faut pas compter sur eux pour une réédition de Drive Blind en vinyle. Mais c'est vrai que là, il manque une structure en France qui se penche un petit peu sur surtout le patrimoine musical underground français, et pour ressortir peut-être des LP en édition limitée et collector. Mais je pense que poser un bon LP de Drive Blind sur sa platine, ça le ferait plutôt pas mal. On l'a vu aussi avec Shaggyhound, on l'a vu aussi avec ce genre de groupe qui avait petit peu le cul entre deux chaises et qui ont été actifs pendant 5, 6, 7 ans ou 3 ou 2, mais qui ont laissé quand même des choses très concrètes. Donc là, je pense qu'il manque une petite structure qui ferait les choses juste pour les faire et pour sortir des belles galettes rééditées, parce que là, on commence à rentrer à un âge et à une époque où il faut archiver tout ça.
Exactement. Et justement, une petite anecdote concernant Drive Blind. Il n'y a pas très longtemps, un fan avait monté sur Facebook un groupe destiné à encourager le groupe donc Drive Blind à se reformer. Il y a eu 500 personnes qui avaient signé. Et bon, ça n'a visiblement pas porté ses fruits puisqu'on n'a toujours pas de nouvelles des Nîmois. Et puis, autre petite anecdote, ben justement sur Wikipédia, il n'y a pas très longtemps, il y a un gros article qui a été enfin posté où est retracée toute la bio de ce groupe absolument incontournable.
Voilà, donc oui, pour la reformation, je pense qu'il ne faut pas trop y compter parce qu'il y a eu des gros problèmes internes à la sortie de cet album-là qui ne concernait pas du tout la musique. Donc à mon avis, on verra jamais malheureusement de reformation même ponctuelle du groupe. Ensuite, il y a eu Tantrum, hein, qu'on corsait le propos d'un truc un peu noisy, power pop, grungy. Ils sont passés un truc ultra noise en fait.
Ah oui, ultra noise. Ouais.
Drive Blind, moi je les ai vus à l'époque de la sortie de cet album, donc ou juste avant, hein, puisqu'ils ont splitté dans la foulée. Et je crois que je les ai vus, je me rappelle plus vraiment exactement quand c'était, ça devait être en 95-96, je dirais, quoi.
C'est ça, qui en plaît, c'est 95-96, cette période-là.
Soit en ouverture de Silmarils, soit en ouverture de Lofofora. En tout cas, c'est sur scène de ces deux groupes-là. C'était dans un club de 250 personnes. Donc, Silmarils, ils venaient de sortir leur album avec Courvite, là, avant que ça explose et qu'ils jouent dans des salles, des plus grosses salles. Et Lofofora sortait leur deuxième album, je crois. Ils jouaient pour des jauges 250, 300, sold out à chaque fois. Ça me semble plus plausible la piste Lofofora que Silmarils, mais ne sait-on jamais, c'était dans une salle suisse, donc peut-être qu'ils avaient fait un plateau français. En tout cas, je connaissais pas le groupe, je les ai connus que quelques années après, et j'avais bien aimé. Enfin, moi, je les avais mis dans la case un peu nirvanesque, hein, grungy, avant de comprendre que, ils allaient aussi chercher du côté de la grosse noise américaine, de Helmet, etc. Mais c'est un bon souvenir. Donc, on va s'écouter ça, Seb, et on va se dire à tout à l'heure et on va faire nos au revoir. Ok Seb, c'est déjà la fin de ce premier numéro, donc ça va être une formule mensuelle, hein. Je te dis au mois prochain, on va rester toujours dans la même thématique, donc rien de bien nouveau. Je vous invite tous à vous pluguer de temps en temps sur notre page Podomatique, vous pouvez écouter en ligne ou pouvez la télécharger en MP3. D'ici là les gars, moi je serai sur la route avec un groupe qui appartient à cette petite thématique 90, hein, puisque je joue dans Cab Driver Stories. On va être sur les routes françaises à partir du 20 janvier. Donc si ça vous branche, vous allez sur la page Bandcamp ou sur mon site likesunday.com où sont répertoriées toutes les news concernant mes activités. Cab Driver Stories, délire un peu Revelation Records, emo rock, punk rock mélodique des années 90, grungy, power pop, etc., etc. Vous connaissez la chanson. D'ici là, les gars, je vous dis restez droit, restez chaud, restez beau et surtout restez vivant. Seb, je te dis à bientôt. C'est toi
à bientôt,
qui termine ce podcast.
Salut Sam, à bientôt, bye bye.